Bonjour chers auditeurs de RLP, vous avez un nouveau rendez-vous avec l'histoire du Périgord et des Périgourdins présenté par les membres de la Société historique et archéologique du Périgord. Et aujourd'hui donc nous allons survoler des siècles d'histoire du Périgord avec mon invité que je vais laisser se présenter tout d'abord.
Bonjour, Michel Combet. Donc je suis maître de conférence honoraire à l'Université de Bordeaux et à l'INSPE d'Aquitaine. Et j'ai coordonné avec Bernard Lachaise la nouvelle histoire du Périgord qui vient d'être publiée par les éditions Kern.
Voilà, c'est donc un ouvrage collectif. Et on verra tout à l'heure, on parlera un petit peu de l'intérêt qu'il y a à avoir différents auteurs et différents points de vue. Mais pour commencer, je vais vous demander la question bateau. Pourquoi une nouvelle histoire du Périgord ?
Alors pourquoi ? Effectivement, parce que la dernière histoire du Périgord qui traitait des périodes les plus anciennes jusqu'à la période contemporaine, datée de l'an 2000, et que depuis, d'une part, elle est peu accessible parce qu'épuisée, et d'autre part, parce que entre 2000 et 2022, les disciplines historiques et celles qui lui sont voisines ont évolué, que de nouveaux travaux ont eu lieu et que de nouvelles découvertes ont été faites.
Voilà, je crois qu'on y reviendra un petit peu plus tard, en particulier pour parler de certaines techniques qui sont maintenant utilisées en archéologie. Mais donc, ouvrage collectif que vous avez coordonné avec M. Lachaise, et quels sont un peu les profils des auteurs qui sont intervenus dans cet ouvrage ?
Alors, c'est une approche, on va dire, presque pluridisciplinaire, puisqu'un certain nombre de nos collègues sont de formation archéologique ou de formation muséale, je ne sais pas si le terme est exact, puisque donc, je vais peut-être en profiter pour citer ces auteurs, la partie la plus ancienne, le paléolithique, a été traitée par Nathalie Fourman, qui est conservatrice du musée des Aizis et qui en est aussi la directrice. Ensuite, le néolithique et la période qui va jusqu'au début de l'histoire a été traitée par un jeune collègue, Eneco Iriart, qui est chercheur archéologue à l'Université de Bordeaux. Puis le Moyen-Âge, qui a été traité par un collègue aussi maître de conférence à l'Université de Bordeaux-Montaigne, qui s'appelle Ézéchiel Jean Courret. Ensuite, en ce qui me concerne, j'ai traité la période qui va de la fin du Moyen-Âge à 1815. Et l'époque dite contemporaine a été traitée conjointement par Bernard Lachaise, d'une part, que vous avez déjà cité, et Corinne Marache, qui a traité la partie économique et sociale de l'époque contemporaine. Et au passage, j'ai oublié, pour le gallo-romain, nos deux collègues, Hervé Gaillard, qui est archéologue à l'INRAP, et ensuite Elisabeth Pénisson, qui est conservatrice du musée Vézuna de Périgueux.
Voilà. Et moi, ce qui me frappe en entendant les noms de tous ces auteurs, c'est en effet que beaucoup ont des attaches en Périgord et que tous ont effectivement travaillé sur l'histoire du Périgord, certains depuis longtemps, d'autres plus récemment, mais chacun en fouillant la période à laquelle il se réfère.
Alors effectivement, chacun des auteurs a des liens étroits avec le Périgord, soit parce qu'il y est né, soit parce qu'il y vit, parce que le hasard des mutations a fait qu'un jour, bon, il a été nommé en Périgord. Et ces liens font que, depuis longtemps, les uns et les autres se sont intéressés à la préhistoire ou à l'histoire du Périgord. Et autre caractéristique de cette équipe, c'est que, bon, d'une part, elle n'avait jamais participé à une histoire du Périgord. Chacun avait mené des travaux sur des sujets plus étroits, plus particuliers. Mais mis à part Bernard Lachaise, qui avait dirigé la précédente édition chez Fanlac en 2000, aucun des autres auteurs n'avait participé à une histoire du Périgord. Mais ils avaient évidemment engrangé un certain nombre de connaissances sur ce Périgord à travers leurs travaux. Autre caractéristique, c'est que, bon, mis à part Bernard Lachaise et surtout moi, qui sommes relativement d'âge avancé, tous les autres sont jeunes et il y a la moitié, on va dire, des collaborateurs de l'ouvrage qui ont moins de 50 ans. Ce qui fait qu'il y a un renouvellement, ne serait-ce que parce que cette équipe est d'une certaine manière nouvelle.
Tout à fait. Alors, l'annonce de la sortie de l'ouvrage, je crois avoir vu ça dans un article de presse, disait que cet ouvrage corrige des idées reçues. Alors, lesquelles ?
Alors, bon, l'ouvrage corrige un certain nombre d'idées reçues. Effectivement, on ne va peut-être pas les voir toutes parce que ça nous prendrait beaucoup de temps, mais on peut en citer plusieurs. Par exemple, sur le fait que Périgueux ait été choisi, soit devenue, ait été la capitale des Pétrocores ou Pétrucores à l'époque gallo-romaine. Ce choix, ce n'est pas un choix qui s'est imposé depuis Périgueux, mais c'est un choix politique qui a été décidé par l'empereur Auguste, qui se trouvait à ce moment-là à Lyon, et qui a rebâti, on peut dire, reconstruit la carte des provinces romaines et notamment de l'Aquitaine, et à ce moment-là a choisi de donner une cité correspondant au Pétrucore, et cette cité, il a choisi comme chef-lieu Périgueux, mais ça aurait pu être une autre ville parce qu'il y avait dans ce territoire, dans cet espace, d'autres villes comme Montignac, par exemple. Et donc, sans doute que le Périgord naissant aurait pu avoir une autre physionomie si cette capitale avait été Montignac. Périgueux se trouve au centre d'une zone dont les limites ne sont pas définies avec une très très grande précision, mais qui correspond approximativement aux limites actuelles du département de la Dordogne pour la partie ouest et sud, mais elle en diffère au nord-est en particulier, puisque cette cité des Pétrucores, on pourrait dire, s'arrête au niveau des terrains cristallins qui forment la bordure nord-nord-est du département. Une des idées reçues. Il y en a d'autres.
Il y en a d'autres.
Il y en a d'autres. Je ne sais pas si on continue sur le sujet ou si on passe à autre chose.
On peut en prendre une ou deux autres.
Alors, une autre idée reçue, c'est que, par exemple, eh bien, l'organisation du territoire à l'époque médiévale soit directement héritée de cette cité gallo-romaine. En réalité, Ézéchiel Jeancouret a montré que c'est une construction qui se fait progressivement et qui n'est pas du tout hérité de la période gallo-romaine, mais qui évolue avec le temps pour donner petit à petit à ce territoire qu'on nomme le Périgord sa configuration. On pourrait aussi évoquer, par exemple, le fait que au XVIIIe siècle, contrairement à ce qu'on a pu penser longtemps, le Périgord n'était pas retardé ou attardé intellectuellement et culturellement, puisque de plus en plus de travaux, mais beaucoup reste encore à faire, montrent que les bibliothèques existaient non seulement dans les châteaux du Périgord, mais aussi chez des bourgeois, que ces bibliothèques étaient fournies et qu'elles étaient en prise avec la mode du temps, ce qui montre que le niveau culturel de nos prédécesseurs était voisin, sans doute, de celui de ceux qui habitaient une grande ville comme Bordeaux. Et enfin, pour en terminer avec les idées reçues, celle qui, on va dire, concerne la période terminale, l'époque contemporaine, puisque le plus de ce livre, c'est qu'il va jusqu'en 2022. Il a permis notamment à Corinne Marache d'étudier précisément les évolutions économiques de la région et là aussi de montrer que tout n'est pas catastrophique sur le plan économique dans cette région et qu'il y a d'une part une certaine forme de dynamisme, d'une part dans l'agriculture, avec de plus en plus de produits qui ont une qualification IGP, mais aussi avec des industries renouvelées, notamment des industries de luxe comme Hermès, Repetto ou encore une peut-être un peu moins connue, CWD, qui est installé aussi à Nontron et qui fabrique de la sellerie de luxe et de compétition et qui a un marché, sinon international, en tout cas national.
Alors, je voudrais maintenant qu'on parle un peu des découvertes récentes qui ont permis de modifier un peu l'archéologie et même la manière de voir l'histoire, en particulier celle du Périgord.
Alors bon, on peut citer effectivement plusieurs découvertes hein, qui ne figuraient pas dans les ouvrages précédents, puisqu'elles ont été faites entre 2000 et nos jours. Alors certes, ces découvertes, elles sont le plus nombreuses dans le domaine de l'archéologie et concernent davantage les périodes les plus anciennes que les périodes récentes. Elles sont liées en particulier aux nombreux travaux routiers et d'infrastructures qui ont été réalisées dans le Périgord et qui ont amené à des fouilles de sauvetage pour permettre de conserver ce qui était intéressant. C'est ainsi que, par exemple, qu'en 2000 a été découverte la grotte de Cussac, entre le Bugue et le Buisson de Cadouin, et qui est aujourd'hui, évidemment, une grotte préservée, de manière à ce que les archéologues du futur puissent l'exploiter avec les techniques dont on a déjà dit qu'elles se renouvellent très très vite, en particulier dans l'archéologie, qui utilise des moyens très très modernes pour repérer des choses. Et ces moyens évoluant très très vite, on préserve l'avenir en faisant que cette grotte ne soit pas ouverte au public. Je crois que récemment, vous avez parlé aussi, pour la période la plus récente de la préhistoire, de la ville gauloise de La Pérouse.
Tout à fait. On a consacré deux émissions, et entre autres avec Eneco Iriart, qui est donc l'auteur du chapitre correspondant à cette période dans votre livre.
Voilà, et qui a mené effectivement des travaux sur cette ville. Et c'est une ville gauloise, et c'est sans doute pour l'instant la seule que l'on ait trouvée dans le sud-ouest de la France, et elle paraît effectivement révéler une agglomération d'importance.
Et qui était certainement à cette période-là, deux à trois siècles avant notre ère, oui, qui était plus importante que Vézouna.
Absolument, et qui a continué sa vie, en gros, jusqu'au deuxième siècle après Jésus-Christ, entre le troisième siècle avant et le deuxième siècle après.
Et alors, ce qui me frappe aussi, on parlait de voies de communication tout à l'heure, c'est que La Pérouse montre aussi que cette cité était sur le bord d'une importante voie de communication, et qu'à l'époque, les voies de communication, alors elles n'étaient pas si modernes que maintenant, mais il y avait quand même des voies de communication routières et des voies fluviales. Maintenant, la voie fluviale en Dordogne n'existe plus, mais à l'époque, c'était très important.
Effectivement, la voie fluviale était en relation avec les voies terrestres. Et les voies terrestres étaient souvent placées sur les plateaux et les collines et pas dans les fonds de vallée qui étaient marécageux et pas toujours très utilisables l'hiver en particulier. Mais on voit effectivement, on retrouve des voies extrêmement importantes qui permettaient de relier ces agglomérations au reste de la Gaule, par exemple.
Eh bien, on va peut-être prendre une petite respiration musicale avant de revenir à notre sujet. Thank you. Alors maintenant, je vais vous demander quelles sont les périodes qui pour vous semblent importantes dans l'histoire du Périgord. S'il y avait deux ou trois périodes à retenir, lesquelles ?
Alors on pourrait dire que toutes les périodes ont leur importance puisqu'elles participent à la construction de cette histoire du Périgord. Mais il y a des moments peut-être où cette histoire vibre davantage en relation avec l'histoire nationale. Et le Périgord devient à ce moment-là un des centres importants de cette histoire. C'est le cas notamment pendant la guerre de Cent Ans, au Moyen Âge, puisque les affrontements entre Français et Anglais se déroulent en grande partie sur notre territoire, pour le malheur de ses habitants et en particulier des paysans. Mais le Périgord se trouve alors complètement en phase avec ce qui se passe sur le plan du Royaume de France. Et on sort de cette période en 1453 avec la bataille de Castillon. La France se trouve en position de puissance relativement réunifiée. Mais la période qui s'ouvre à ce moment-là, qui va être une période de relative prospérité, où l'on va beaucoup construire, et notamment de magnifiques châteaux, mais aussi des hôtels particuliers dans les villes, à Sarlat, à Périgueux, bon, aussi à Bergerac, même si l'histoire fait qu'ils sont aujourd'hui moins visibles, va s'interrompre pour une période qui, à nouveau, reprend une importance nationale, voire internationale. C'est celle dite des guerres de religion, qui, entre 1560, en gros, et la fin du XVIe siècle, vont marquer et l'histoire du royaume, puisque les affrontements sont non seulement des affrontements religieux, mais aussi des affrontements politiques, qu'ils sont au cœur de l'histoire de France, mais aussi, pourrait-on dire, de l'histoire de l'Europe, puisqu'ils sont observés avec grande attention par le roi catholique d'Espagne, Philippe II, et par la reine protestante d'Angleterre, Élisabeth Ière, qui ont intérêt à suivre ce qui se passe dans ce royaume de France et jouent parfois un rôle effectivement important, même s'il est au second plan. Durant ces deux périodes, l'histoire du Périgord, c'est l'histoire de France. Et finalement, c'est la période d'ailleurs où des responsables politiques nationaux, des souverains, leurs épouses, leurs sœurs, leurs mères, viennent jusqu'en Périgord. Et puis, ceci va progressivement s'éteindre. Et le dernier moment, pourrait-on dire, où l'histoire locale est vraiment en prise avec l'histoire nationale, c'est la Fronde, puisque, à nouveau, le territoire du Périgord est étroitement concerné par cette révolte contre le pouvoir de Mazarin et de Louis XIV.
Avec des batailles à Montignac, si je me rappelle bien.
Avec des batailles qui sont capitales pour l'avenir de la monarchie.
Et la participation d'un des Rochons de la Pérouse, alors une branche, je crois, connexe.
Oui.
Il y en a un qui, si mes souvenirs sont bons, est mort devant Montignac.
Voilà, il y a eu des batailles extrêmement importantes à ce moment-là. Et le Périgord est vraiment concerné par ces problèmes nationaux, surtout lorsque, par exemple, un ambassadeur espagnol traverse le Périgord pour se rendre du nord de l'Europe, des Pays-Bas où il a signé des tractations très très importantes, pour se rendre en Espagne, et il traverse le Périgord en pleine fronde. Et il faut absolument lui trouver un moyen de passage qui lui permette de franchir la Dordogne sans tomber entre les mains des uns ou des autres. Et il voyage sous la surveillance de la police de Mazarin, mais aussi sous la surveillance des frondeurs. Et alors, évidemment, après, parmi les moments très très importants de l'histoire du Périgord, il y a incontestablement la Révolution française qui va voir la naissance du département, puisque c'est en 1790 que naît le département de la Dordogne, comme la majorité des autres départements. Et évidemment, c'est un moment important de l'histoire, bon, mais il y en aurait sans doute beaucoup d'autres.
Et moi, ce qui me frappe par rapport à la période révolutionnaire, c'est en particulier au moment de la Convention, c'est de voir qu'on n'a pas eu en Périgord la séparation nord-sud ou la séparation par des critères religieux qui avaient existé lors des autres périodes. Et que les conventionnels du Périgord étaient tous du même bord, si on peut dire.
Pratiquement. Pratiquement, puisque les élus du Périgord à la Convention sont essentiellement des montagnards qui voteront, à une exception près, la mort du roi. Et alors, on peut s'interroger sur les raisons qui font que ce Périgord a massivement choisi le parti montagnard et jacobin. On peut avancer des hypothèses, mais ça reste des hypothèses. Il se pourrait que ce soit un positionnement par rapport à Bordeaux, Girondins, et à la rancœur accumulé par les Périgourdins, du moins par les élites, parce que ce vote pour les députés de la Convention ne concerne que les élites. La rancœur accumulée par les élites de se voir bridée, primée par Bordeaux, qui contrôlait et la vie économique et la vie politique du Périgord, et qui était incontournable pour eux, et en particulier depuis que... Au XVIIe siècle, on ne réunit plus les États provinciaux du Périgord qui permettaient aux villes du Périgord, mais aussi à sa noblesse et à son clergé, de s'exprimer et d'avoir une visibilité par rapport à la monarchie française.
Effectivement, quand on voit ce qui a précédé la Révolution, on voit qu'en Périgord, il y avait des revendications sur le rétablissement des États du Périgord et tout le monde... Les trois ordres, pratiquement, étaient d'accord là-dessus. Il y avait un mouvement régionaliste, si
absolument, c'est très net. Cela apparaît. Alors évidemment, l'élaboration des cahiers de doléances dépend essentiellement de ceux qui ont tenu la plume à un moment donné. Et en particulier, on peut s'étonner de voir dans des petites paroisses apparaître comme revendication politique le fait de rétablir les États provinciaux. Bon. Mais c'est une préoccupation des élites, et on sait bien que dans la rédaction de ces cahiers de doléances des paroisses, eh bien, c'est souvent celui qui écrivait qui suggérait ce que l'on allait mettre. Et donc c'est une préoccupation qui est présente, elle est présente aussi dans les villes, et elle est exprimée fortement dans celle-ci, dès avant même la réunion pour l'élaboration des cahiers de doléances, dès 1788, on espère beaucoup du rétablissement des États provinciaux du Périgord.
Et donc la Révolution française débouche sur une nouvelle carte géographique avec les départements. Vous disiez tout à l'heure que le département de la Dordogne rassemble quand même des territoires ayant une certaine unité. Par ailleurs, on peut voir aussi qu'après la Révolution, il n'y a pas eu de grosses modifications, alors que d'autres départements ont été modifiés après l'Empire. Et le département de la Dordogne n'a pas été modifié, semble-t-il.
Alors, le département de la Dordogne, tel qu'il est créé le 26 février, je crois, 1790, ressemble énormément au département actuel de la Dordogne. C'est-à-dire qu'il y a eu juste quelques ajustements au nord et au sud de paroisses qui ont réclamé jusqu'en 1793, me semble-t-il, leur rattachement au Périgord, en invoquant notamment la facilité qu'il y avait pour elles de se rendre à Périgueux, alors qu'il était beaucoup plus difficile d'aller dans les autres villes qui les concernaient. Mais ce département de la Dordogne, tel qu'il est créé, effectivement, il colle assez à ce qu'était le Périgord, quelques années auparavant, à des ajustements près.
Et il n'y a pas eu non plus, même encore à cette période-là, de grands affrontements entre Périgueux et Bergerac,
alors,
ou Sarlat.
La Révolution exprime en ses débuts la volonté d'une direction tournante. On imagine à un moment donné que, bien, puisqu'il y a trois grandes villes, Bergerac, Sarlat et Périgueux, la ville chef-lieu puisse tourner et que ce soit alternativement l'une des trois. Et puis finalement, on se rend assez vite compte que cela n'est pas très très facile. Et Périgueux, qui a accueilli notamment les ordres pour l'élaboration des cahiers de doléances de la province du Périgord, pour ce qui est du tiers-état, pour ce qui est du clergé et de la noblesse, finalement va conserver cette fonction et cela va lui profiter, puisque Périgueux, qui n'était pas la ville la plus peuplée du département à la veille de la Révolution, va rapidement le devenir au XIXe siècle, et cela avant même l'arrivée du chemin de fer.
Voilà, donc les périodes importantes de l'histoire. Effectivement, nous avons un peu fait l'impasse sur la préhistoire, mais personnellement, j'y ai déjà consacré 3 émissions. Et puis, la préhistoire du Périgord, on a la chance d'avoir beaucoup de sites, mais elle n'est pas différente de la préhistoire des autres contrées françaises. Qui, selon vous, fait l'unité du Périgord, fait l'identité du Périgord actuellement, à une période où on dit qu'il y a 3 ou 4 Périgords, en fonction de la couleur?
Oui. Alors, c'est une question un peu difficile, parce que l'identité, c'est une, je pense, une représentation que l'on se fait de la réalité. Et cette représentation, elle se fait, il me semble, sur le vécu qu'ont les populations de cette région, au moins, on va dire, depuis la seconde moitié du XIXe siècle, où se développe, malgré les différences existantes entre le Périgord noir, le Périgord vert, le Périgord pourpre ou le Périgord blanc, un certain art de vivre autour d'une culture commune, notamment la culture culinaire. Et très rapidement, dès la fin du XIXe siècle, on voit émerger des recettes qui utilisent les produits du Périgord et des conserveries qui vont les vendre à l'échelle nationale, mais aussi internationale. Les archives départementales conservent de magnifiques étiquettes ou publicités de conserves, par exemple, de truffes ou de cèpes qui étaient expédiées par Périgueux jusqu'en Espagne ou dans d'autres contrées. Et donc autour de cet art de vivre culinaire, mais aussi autour d'une histoire, une histoire renouvelée avec, en particulier, depuis les créations de Gênes Leroy, qui a remis à l'ordre du jour l'histoire des croquants, une histoire sans cesse renouvelée qui alimentait hier et qui alimente aujourd'hui à nouveau bien l'idée d'une culture commune, d'une identité périgourdine ou périgorde, je ne sais pas comment il faut dire.
Donc un département qui reste en phase avec sa ruralité, mais qui, vous nous en avez parlé un peu tout à l'heure, développe quand même des industries qui le mettent dans sa place dans le 21e siècle.
Tout à fait.
Voilà, eh bien, le temps habituel s'est écoulé. Je vous remercie encore, Michel Combé, de votre participation. J'espère que nos auditeurs en tireront profit et iront regarder le livre qui a été publié.
Merci beaucoup.